OK, parfait. On va vous retrouver en fin d'émission. Prochaine entrevue, on va recevoir Dr. Véronique Charret. Elle est pédiatre à Rivière-du-Loup. Dr. Charret, bonsoir.
Bonsoir.
Dr. Charret, vous avez pris l'initiative de faire d'écrire une lettre, OK, qui réclame le retour en classe des enfants et des adolescents. Le 17 janvier, vous avez récolté là, dans les dernières heures, dans les derniers jours, 165 signatures de médecins, dont plusieurs de vos collègues pédiatres. Pourquoi vous avez fait ça?
Bien, en fait, je voyais la rentrée scolaire arriver le 17 janvier, puis il n'y avait pas officiellement d'annonce qui était faite comme quoi cette rentrée-là aurait vraiment lieu. Mmh. On était tous dans l'attente un peu de l'annonce officielle du gouvernement à ce sujet-là, puis elle ne venait pas. Puis là, dans le fond, j'ai commencé à m'inquiéter si elle aurait vraiment lieu, finalement, cette rentrée-là, le 17 janvier, qu'on attend tous beaucoup. Donc, comme pédiatre, puis médecin qui travaille auprès des enfants et des adolescents, on s'est dit qu'on parlerait pour eux, qu'on demanderait le retour en classe le 17 janvier, comme prévu.
C'est comme ça que vous commencez la lettre, Dr. Charret. Vous dites, écoutez, nous, on représente là un groupe de citoyens qui ne sont pas représentés par des syndicats, qui ne peuvent pas aller voter, les enfants, les adolescents. Si les ados et les enfants pouvaient parler, prendre la parole, s'ils avaient un groupe de pression, là, ce groupe de pression-là, qu'est-ce qu'ils diraient à propos de l'école à distance?
En fait, ils diraient qu'ils ne vont pas très bien, les adolescents et les enfants. En fait, l'école à distance, on l'utilise un peu pour pallier au fait que les écoles sont fermées, mais on se rend de plus en plus compte. Là, on est à notre troisième fermeture d'école là, dans les deux dernières années. On se rend compte que c'est pas du tout équivalent à l'enseignement en présence. Un gros motivateur pour les jeunes pour aller à l'école, on le sait, c'est voir leurs amis, le côté social de l'école, tout ça. Puis on s'entend que voir ses amis dans une caméra pendant un mois, deux mois de temps, c'est pas comme les voir dans la réalité.
Non.
Puis la qualité de l'enseignement aussi n'est pas le même. L'attention des jeunes puis des enfants pendant les cours n'est pas le même non plus. Puis ça a des impacts, oui, sur leur motivation scolaire, sur leur santé mentale, mais aussi sur leur santé physique. D'être enfermé entre quatre murs dans une maison pendant des semaines parce qu'on ne sort pas pour aller à l'école, tout ça. C'est sûr que sur la santé, ça a des impacts non négligeables aussi.
Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que, la rentrée qui devait avoir lieu aujourd'hui là, ou dans certains cas là, vers la fin de la semaine passée, se passe à distance, vu la situation sanitaire? Est-ce que vous y voyez une justification quelque part?
Mais en fait, on a l'impression que la décision de garder les écoles fermées plus longtemps origine du fait qu'il y a une augmentation des cas de COVID-19 dans la communauté puis une augmentation des hospitalisations. Mm-hmm. Mais est-ce que cette fermeture-là est vraiment justifiée et a un impact réel sur la pandémie? C'est là qu'on a des questionnements.
OK, puis c'est question. OK, parfait. Jouons un jeu de fiction, là. Si vous aviez Dr. Arruda devant vous, qui est le directeur national de la santé publique, qui est, disons, appelons ça le premier conseiller du PM, quelles questions vous lui poseriez?
Bien, en fait, c'est s'il y a des évidences, lui, dans les. Ce qu'on a remarqué dans les dernières années, dans les pays où il y a des fermetures d'écoles, puis des pays où il n'y en a pas de fermeture d'écoles, est-ce qu'il y a réellement une différence entre le nombre de cas dans la communauté puis dans les écoles? Puis la réponse, c'est non. Dans le fond, on le sait que les pays où les écoles sont ouvertes, oui, il y a des cas dans les écoles. Il y en a dans la communauté. Il ne faut pas se le cacher. Si le virus circule en communauté, les enfants vont l'attraper puis ils vont aller à l'école. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des contacts un peu à l'école, mais beaucoup moins qu'en communauté. Puis on le sait que quand on réouvre les écoles, ça n'a pas tant d'impact. On s'inquiétait au mois d'août quand on a fait une rentrée, on va dire normal dans le contexte de la COVID, là, que ça reprendrait de plus belle les éclosions dans la communauté. On n'a pas vu d'impact finalement. Donc, côté officiellement scientifique, l'impact de la fermeture des écoles sur la pandémie, c'est pas démontré.
OK. Le gouvernement a permis aux ados de retirer leur masque, là, je pense que c'était quelque part au mois de novembre, dans les écoles. Il y a des spécialistes en santé publique, il y a des épidémiologistes qui disaient que c'était peut-être un petit peu prématuré. Est-ce que, quand vous regardez dans le rétroviseur, puis on s'entend que c'est toujours facile, trouvez-vous que c'est une bonne idée?
Je laisserais plus les experts en santé publique se prononcer là-dessus. C'est sûr que nous, on demande que les écoles réouvrent puis que les enfants et les adolescents retournent à l'école, mais avec des mesures sanitaires en place. Là, je suis pas prête à dire qu'on demande que tout le monde retourne à l'école, pas de masque, pas de dépistage, puis all-in. Tu sais, c'est pas ça que je veux dire non plus. Fait que je pense qu'on n'est pas rendu à rouvrir les écoles et à enlever des mesures sanitaires. Je pense que c'est deux choses différentes. Là.
OK. Si les écoles rouvrent le 17 janvier, si les élèves reviennent en présentiel, qu'est-ce que ça va permettre de dépister, d'atténuer, pardon, comme symptômes que vous voyez présentement, Dr Charest, qui vous inquiète?
Bien, en fait, on y va par catégorie. Là, au niveau plus des apprentissages, c'est certain que des enfants ont accumulé énormément de retard depuis 2 ans. C'est l'UQAM, je pense, qui s'était prononcé déjà après la première fermeture des classes en 2020, comme quoi on estimait quasiment 6 mois de retard les apprentissages pour les enfants du primaire, juste avec quelques mois de fermeture, là, finalement, des écoles. On peut penser qu'un an plus tard, la situation ne s'est pas améliorée, mais peut même s'être détériorée. Donc, on espère qu'au moins les enfants de retourner à l'école en présence et d'avoir un enseignement vraiment régulier avec leurs pleines heures d'enseignement, puis les enseignements présents vont leur permettre de consolider leurs apprentissages puis de progresser dans leurs apprentissages. Aussi, bien, on voit que au secondaire, il y a les apprentissages aussi des élèves qui étaient en difficulté, que leurs difficultés se sont augmentées, mais il y a aussi un désintérêt pour l'école qui s'est installé. Plusieurs de mes patients ont tout simplement décroché du milieu scolaire. Ils finissaient leur secondaire, on pourrait dire, de peine et de misère, là, dans l'objectif d'avoir leur secondaire 4 ou leur secondaire 5 pour au moins pouvoir acquérir un métier. Puis là, avec toute l'école en ligne, les difficultés qui se sont augmentées, puis l'écart qui s'est creusé avec les autres élèves, bien, ils ont complètement décroché, dans le fond. Donc, on veut raccrocher nos enfants, nos jeunes à l'école, leur redonner de la motivation, puis les faire progresser dans leurs apprentissages. Puis aussi, bien, à la maison, veut pas, l'école en ligne, ça veut dire école sur les écrans. Donc, des enfants qui étaient moins exposés aux écrans parce qu'ils fréquentaient des établissements scolaires, au moins les journées d'école, là. Mais là, on les colle sur des écrans toute la journée, puis on leur demande de pas trop, on leur limite en plus dans la communauté toutes leurs activités. Fait qu'en plus d'être sur leurs écrans pour l'école, bien, ils sont sur leurs écrans dans leur passe-temps aussi. Donc, on a des enfants, là, habituellement, la Société canadienne de pédiatrie recommande 1h30 d'écran par jour. Puis là, on a des enfants qui font des 6-7 heures d'écran par jour, là, avec l'école, les passe-temps, tout ça. Ça a son lot de conséquences sur le gain de poids, le déconditionnement physique, l'obésité. C'est vraiment même rendu au niveau physique l'impact de la pandémie puis des mesures sur les enfants.
Cette lettre-là que vous signez, que vous avez envoyée là, comme ça dans la sphère publique, signée par 165 médecins, dont plusieurs pédiatres, Dr Charest, c'était votre idée, mais je me demandais pourquoi vous n'êtes pas passé par l'Association des pédiatres. Il y a un groupe qui regroupe qui représente les pédiatres.
Oui, en fait, j'aurais pu. Je pense que ça s'est fait un peu en parallèle. Là. Je pense que l'Association des pédiatres aussi développe quelque chose. Je suis pas, dans le fond, je suis membre de l'Association des pédiatres du Québec, mais je suis pas sur le conseil d'administration. Avec les vacances aussi, des fêtes qui se terminaient pour certains un peu plus tard là, que le 3 janvier, bien, c'était un peu plus difficile, là, dans le fond, de se communiquer là, de vive voix ou de même par courriel. Fait que dans le fond, moi, j'ai un peu tâter le pouls autour de moi pour dire est-ce que je suis la seule à être inquiète pour les enfants? Est-ce que je suis la seule à me demander si les écoles vont vraiment ouvrir le 17 janvier? Puis là, c'est un peu comme ça que c'est parti, mais dans le fond, c'était pas pour être solitaire dans ma démarche, là. C'était juste parce que ça s'est arrivé comme ça, là. C'est un peu ça que je pourrais dire.
J'ai été étonné parce que, bon, le gouvernement s'est beaucoup vanté depuis 2 ans, là, d'avoir été un des endroits où l'école a repris rapidement, où on a mis beaucoup d'emphase pour que les enfants reviennent à l'école. Mais j'ai toujours été étonné que pour ce qui est des tests de dépistage, puis d'abord, pour se présenter, là, avoir une certaine priorité dans les centres de dépistage, une priorité aussi pour que les tests soient faits plus rapidement, il n'y avait pas de priorité particulière pour les élèves et les profs.
Oui. En fait, si on pense que le taux d'éclosion dans les écoles n'est pas supérieur à celui de la communauté, dans le fond, est-ce qu'il y a une nécessité de les prioriser? En fait, ça, ce serait plus à la santé publique de répondre. Je sais qu'actuellement, ils annoncent ouvertement qu'ils vont prioriser les écoles pour les tests de dépistage rapides. Je pense que les centres de dépistage par PCR sont dépassés tout court là, par la quantité de gens qui veulent se faire dépister. Fait que est-ce que ça va être possible d'allonger la liste des gens priorisés pour les dépistages? Ça, c'est un peu à la santé publique de voir avec le débit qu'ils peuvent offrir, comment ils veulent prioriser les choses. Mais déjà, je pense que les commandes de tests rapides soient majoritairement dédiées pour les enfants puis les adolescents pour les écoles. Je pense que déjà, ça va être un pas en avant là, pour le dépistage précoce des enfants symptomatiques avec l'isolement qui va avec puis tout ça. Là. Donc, je pense que c'est une belle manière de compenser. Là.
Terminant, avez-vous des conseils pour les parents sur, disons, les signes plus inquiétants qu'ils devraient surveiller chez leurs enfants, chez leurs ados présentement?
Bien, je pense que que les parents sont déjà au courant que leurs enfants et leurs ados vont pas bien. Je pense qu'ils savent plus vers qui se, se tourner. Je pense que comme société, on est rendu à une étape de la pandémie où on doit se questionner sur nos, dans le fond, nos valeurs. On a 2 ans de pandémie derrière nous, mais on ne sait pas combien de temps il reste devant nous, dans le fond. Mm. Puis là, je pense qu'on est rendu à avoir une vision un peu à long terme pour les enfants et les adolescents. Les mesures les affectent. Le virus, on sait, ne les rend pas très malades. Ils ne sont pas en train de remplir les hôpitaux présentement. Je pense que là, on a une question à se poser comme société. Est-ce qu'on veut continuer à mettre cette génération-là en péril ou on veut se dire que les enfants de demain sont notre priorité? C'est le temps qu'on leur ramène un peu de normalité dans leur quotidien, puis qu'on les ramène un peu à la vie, là, puis qu'on leur redonne leur santé physique et leur santé mentale. Dans le fond, c'est un peu ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de virus. Je dis pas qu'il n'y a pas d'hospitalisation. Je dis pas que le COVID-19 n'est pas dangereux pour certains adultes, tout ça. Mais je pense que là, on a beaucoup mis d'attention sur le virus, mais là, il y a des choses qui se passent en coulisses que je pense qu'on a assez ignorées. Puis je pense que comme population, il faut qu'on se pose des questions sur nos priorités.
Bien, le message est lancé. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir, Dr Charest.
Ça fait plaisir.
Salut,
bonne
c'était
soirée.
Vous aussi. C'était Dr Véronique Charest. Elle est pédiatre à Rivière-du-Loup, dans le bas du fleuve, et elle signe une lettre qui a été co-signée par 160 de ses collègues médecins qui réclament un retour à l'école pour les enfants, les ados, dès lundi prochain.